Tout de suite le journal, Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Benjamin Griveaux renonce à être candidat à Paris. En lice pour La République En Marche, il a annoncé sa décision ce matin après la diffusion sur Internet de vidéos à caractère sexuel et de captures d'écran de conversations personnelles qui lui sont attribuées mais qui ne sont pas authentifiées pour l'instant. L'ancien porte-parole du gouvernement déclare vouloir protéger sa famille. Des voix se sont élevées de la France insoumise aux Républicains dénonçant le non-respect de sa vie privée. Nous analyserons ce fait politique et ses conséquences avec Stéphane Robert.
L'invité de la rédaction sera Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Elle était candidate sur la liste de Benjamin Griveaux dans le 16e arrondissement.
Qui a mis en ligne cette vidéo? Comment a-t-elle été relayée? Précision à suivre avec Damien Mestre dans une demi-heure.
Le monde de l'hôpital, dans la rue, à nouveau aujourd'hui.
11 mois après le début du mouvement de grève des urgences et 3 mois après l'annonce du plan d'urgence d'Agnès Buzyn. Nous reviendrons aussi sur la démission collective de l'ensemble de l'Académie des Césars hier soir avec Diane Berger. Et puis dans le journal, nous dirons aussi en Chine, où plusieurs applications ont été développées sur place pour repérer les lieux où se trouvent les personnes atteintes par le coronavirus. Nous irons à Pékin dans une demi-heure. Avant cela, dans la grande table des idées, Olivia Jasbert.
Nous allons marcher sur les pas d'un anthropologue, notre invité Marc Abélès. Il signe les carnets d'un anthropologue de mai 68 au Gilet jaune et il fait le pont entre ces deux événements, entre ces deux révoltes, et nous raconte comment il procède, la position de l'anthropologue face à l'événement. Il est notre invité dans une vingtaine de minutes.
On retrouve juste après ce journal. C'est un coup de tonnerre dans la campagne des élections municipales. Benjamin Griveaux a annoncé juste avant 9h ce matin qu'il renonçait à être candidat à la mairie de Paris.
Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Cette décision me coûte. Mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille. Et puis, c'est le projet pour Paris, pour lequel nous sommes beaucoup battus. Ce projet, aujourd'hui, il vivra mieux sans moi.
Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du service politique de France Culture. On vient d'entendre Benjamin Griveaux. Tout est allé très vite, semble-t-il, depuis hier après-midi avec le relais d'une vidéo sur Internet.
Oui, il y a deux vidéos, en réalité, sur lesquelles on voit Benjamin Griveaux se masturber. Il n'est pas identifiable, on ne voit pas sa tête. C'est apparemment lui-même qui se filme et qui poste ses vidéos sur une messagerie cryptée. En revanche, on peut voir que le compte messagerie avec lequel il poste ses vidéos est à son nom, B. Griveaux. Ces vidéos sont en ligne sur un site Internet et c'est le lien vers ce site Internet qui a été publié sur le réseau social Twitter hier en fin d'après-midi par un député, Joachim Sonforget, député des Français de l'étranger, élu sous les couleurs de La République En Marche, mais contraint de quitter le parti du président l'année dernière, début 2019. Le relais de ces vidéos via Twitter s'est propagé comme une traînée de poudre hier soir et ce matin, au point que Benjamin Griveaux a dans un premier temps annulé son passage en direct dans la matinale de nos confrères de RTL ce matin. Il a annulé également une audition prévue juste après à 8h30 devant deux clubs de réflexion politique, Terra Nova et la Fondapol. Et puis, anticipant l'ampleur médiatique que menaçait de prendre très vite cette affaire, il a réuni son équipe de campagne et juste avant 9h ce matin, a déclaré ce qu'on vient d'entendre, qu'il renonçait à sa candidature à la mairie de Paris.
Merci Stéphane Robert, vous restez avec nous pour analyser les conséquences politiques de cette affaire. À l'origine de cette décision de Benjamin Griveaux, donc cette vidéo dont la mise en ligne est revendiquée par un artiste russe, Piotr Pavlensky, que vous avez pu joindre au téléphone, Damien Mestre.
Oui, Piotr Pavlensky, c'est un artiste russe en performeur, plus précisément, bien connu du milieu de l'art contemporain. Il a revendiqué être à l'origine du site web sur lequel on retrouve les messages et les vidéos qui incriminent Benjamin Griveaux. Piotr Pavlensky, vous le connaissez sûrement, c'est lui qui s'était cousu la bouche pour protester contre Vladimir Poutine, ou bien lui encore qui s'était cloué les testicules en 2013 sur la place du Kremlin à Moscou. C'est donc un artiste dissident russe très virulent, très provocateur, et dans son esprit, la révélation de ces images fait partie de la même démarche artistique et politique. Alors pourquoi passer de Vladimir Poutine à Benjamin Griveaux? Eh bien parce que l'artiste a obtenu l'asile politique en France en 2017. Il sévit donc désormais ici, en France, et pour lui, c'est vraiment la même chose. Il veut montrer l'hypocrisie du monde politique. Nous l'avons contacté hier soir, vous l'avez dit, alors que les premières vidéos commençaient doucement à circuler. Il a accepté de répondre longuement à nos questions, et il n'a aucun problème avec le fait de révéler une correspondance privée. Écoutez-le.
C'est question pas vie privée, c'est question que ça montrait que ces personnes qui... méprise son électeur. C'est, ça montrait que...
Vous vouliez montrer l'hypocrisie d'un candidat politique?
Pour moi, cette situation cette situation qui se monte dans le politique.
Ce qu'il dit, ce qui lui pose souci, c'est que le candidat Benjamin Griveaux utilisait beaucoup sa famille dans sa communication politique. Il mettait en avant sa relation avec sa femme et ses enfants. Piotr Pawlinski voulait donc montrer ce qu'il estime être une contradiction entre l'image d'un homme politique et sa vie privée. L'artiste estime en effet que c'est dangereux de voter pour quelqu'un qui est prêt à mentir en quelque sorte à son électorat. Et il assure que ce n'est que le début puisqu'il travaillerait avec des sources anonymes pour dévoiler d'autres images sur d'autres personnes politiques. Mais vous en doutez, la démarche de l'artiste est très très controversée. Elle est même sûrement illégal. Benjamin Griveaux a d'ailleurs décidé de porter plainte. Ça n'effraie pas Piotr Pawlinski. Il se dit prêt à aller devant un tribunal. Il en a par ailleurs l'habitude.
Merci Damien Maistre. Votre interview de Piotr Pawlinski est à retrouver sur franceculture.fr. Lors d'une précédente performance en 2017, l'artiste avait incendié la façade d'une succursale de la Banque de France. Il avait été condamné à un an de prison ferme. Stéphane Robert, donc, cette affaire de Benjamin Griveaux a des conséquences politiques fortes.
Oui, difficile à mesurer encore à ce stade. Alors, avant cela, on peut citer quand même les nombreuses réactions de responsables politiques qui vont toutes dans le même sens, quelle que soit leur appartenance politique. On peut en citer deux pour vous donner la tonalité. Celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Jusqu'où ira-t-on dans la honte et l'abomination, s'indigne-t-elle. Ce n'est plus aux chiens qu'on livre les hommes, mais aux rats planqués au fond des égouts. Et puis, celle de Jean-Luc Mélenchon, il parle de publications odieuses, indiquant sur Twitter que non, tous les coups ne sont pas permis. Et il demande aux militants de la France Insoumise de ne pas participer au règlement de compte dont Benjamin Griveaux fait l'objet. Alors, les conséquences maintenant, eh bien, c'est qu'il n'y a plus de candidat à la République en marche à la mairie de Paris. Il reste Cédric Villani, mais il a été exclu du parti il y a une quinzaine de jours. Ce n'est donc officiellement plus un marcheur. Et puis, il reste également tous les candidats désignés et investis dans chaque arrondissement par Benjamin Griveaux. Et puis, tous ceux qui sont derrière, ça fait des centaines de personnes en campagne depuis maintenant de nombreuses semaines et même depuis des mois. Il y a sans doute également beaucoup d'argent déjà investi dans la campagne de l'ex-candidat Griveaux. Il apparaît donc difficile d'arrêter aujourd'hui une machine lancée à pleine vitesse. D'ailleurs, dans l'équipe de campagne de Benjamin Griveaux, on annonce lui chercher un remplaçant. Mais à un mois du scrutin, on peut se demander si ça n'est pas un peu vain.
Et l'invité de ce journal est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Vous êtes en duplex depuis Bercy. Et vous étiez candidate sur la liste de Benjamin Griveaux dans le 16e arrondissement de Paris. Que pensez-vous de cette décision? Benjamin Griveaux a-t-il eu raison de démissionner?
Je crois que sa décision l'honore et qu'elle doit être respectée de tous. Mais effectivement, comme tout le monde, je considère qu'en politique, la fin ne saurait justifier les moyens et que les Parisiens, ils méritent mieux que cette écœurante chasse à l'homme. Et donc, moi, j'assure Benjamin et ses proches de tout mon soutien parce que c'est une situation très immonde. Enfin, voilà. Et je salue les responsables politiques qui rappelle de manière très claire que l'intimité des hommes politiques n'a pas à être livrée sur la place publique.
Une question de Stéphane Robert.
Est-ce que vous allez chercher un remplaçant?
Écoutez, les cadres du parti se réunissent en ce moment, je vais les rejoindre sur le sujet. L'enjeu, c'est le collectif, l'enjeu, c'est tout ce que nous avons bâti depuis plusieurs mois. Il y a un travail gigantesque qui a été fait, travail sur le programme. Nous avons la plus grande force militante à Paris. Notre objectif, c'est de proposer un projet de transformation pour Paris. Je ne crois pas que Madame Dati ait un projet très clair. Je crois qu'on a fait le tour du projet de Madame Hidalgo ces 6 dernières années. Donc oui, il faut un projet alternatif à Paris et nous allons le porter. Nous en avons tous les éléments et Benjamin Griveaux a fait un travail remarquable sur ce sujet.
Merci Agnès Pannier-Runacher. Vous restez avec nous pour la séquence environnement à la fin de ce journal. 2 semaines après le fiasco de la majorité sur le congé pour le deuil d'un enfant, hier à l'Assemblée nationale, une mesure en faveur des personnes handicapées a été votée contre l'avis du gouvernement. Les députés, sous pression, ont finalement laissé passer le texte qui prévoit l'individualisation de l'allocation adulte handicapé en supprimant la prise en compte du revenu du conjoint dans ce calcul. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Un vote à l'issue d'une joute autour de l'accusation de manquer d'humanité.
Le coup est dur pour la majorité car hier c'est une opposition coalisée, LR, PS, Insoumis, Liberté et Territoires, qui s'est unie pour voter des articles d'une proposition de loi pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Mais ça n'était pas le bon moment pour le gouvernement qui souhaitait que ces articles trouvent leur place lors de l'examen du projet de loi Grand Âge et Autonomie qui sera discuté d'ici l'été. 2 jours seulement après la grande conférence nationale sur le handicap, Marie-Georges Buffet, Valérie Rabault ou encore le secrétaire général des Républicains Aurélien Pradier sont montés à la tribune pour dénoncer l'attitude du gouvernement.
Vous ne pouvez pas, comme vous le faites depuis tout à l'heure, empiler des mots les uns après des autres, revendiquer des slogans qui, lorsqu'ils ne se traduisent pas par des actes, restent des slogans creux. Et c'est ce qui est absolument insupportable, non seulement pour nous, mais aussi pour nos concitoyens, de vous entendre, la bouche en cœur, revendiquer des slogans, et lorsqu'il s'agit de passer aux actes, vous vous fracassez sur la réalité de ce que devait être la justice sociale.
Et hier soir, les députés de l'opposition ont donc profité de l'occasion pour souligner un peu plus les faiblesses de la majorité accusée de manquer d'humanité, d'où cette mise en garde du député La France Insoumise, François Ruffin.
Il y a eu la proposition de loi de Marie-Georges Buffet la dernière fois, les marcheurs étaient seuls. Vous étiez seuls contre la droite, vous étiez seuls contre la gauche. Il y a eu la PPL Deuil, c'est produite la même chose. Vous allez vous prononcer là sur des choses qui concernent des centaines de milliers de personnes dans le pays. Faites-le en votre âme et conscience.
Et échaudés par l'affaire du congé pour les parents endeuillés, certains députés LREM ont quitté l'hémicycle, quand d'autres, quatre pour être précis, ont bravé la consigne de vote et joint leur voix à celle de l'opposition. Cet épisode montre combien le traumatisme est grand dans les rangs de la majorité qui va devoir, dès lundi prochain, en séance publique, affronter la tempête de la réforme des retraites.
Merci à vous Pierre Neveu. Ils espèrent un printemps de l'hôpital. Médecins, infirmiers, aides-soignants manifestent à nouveau aujourd'hui en distribuant des fleurs devant l'hôpital Necker à Paris en cette Saint-Valentin. 11 mois après le début de la grève aux urgences, des sit-ins, bals et kermesses sont aussi prévus à Lyon, Marseille et Toulouse notamment. 3 mois après le plan de la ministre de la Santé, le collectif Interurgence dénonce toujours l'austérité à l'hôpital. 800 médecins, chefs de service, sont démissionnés de leurs fonctions administratives un peu partout en France. Et le mouvement semble s'inscrire dans la durée, Tara Schlegel.
Oui, ils ne veulent plus être complices d'un service public qui part à la dérive. Les médecins ont donc choisi de parler via leur collectif créé en septembre, Interhôpitaux, en écho à celui des infirmières et aides-soignantes des urgences qui ont été les premières à sonner l'alarme. Faute de moyens, faute surtout de personnel, leurs conditions de travail ne leur permettaient plus alors d'accueillir correctement les malades aux urgences, jusqu'à mettre en péril leur sécurité puisque plusieurs agressions ont été à l'origine du début du mouvement. Tous réclamaient alors un geste qui n'est toujours pas venu pour rendre leur métier attractif. Des centaines de lits sont encore fermés en France et les infirmières notamment sont très mal payées. Si on les compare au reste de l'OCDE, leur rémunération se situe au 26e rang sur 29. Les agents des hôpitaux voulaient donc 300 euros de revenus de plus pour tous dès le début du mouvement, mais le gouvernement a préféré empiler les primes catégorie par catégorie. Dernièrement, par exemple, le ministère a annoncé 66 euros de plus par mois, mais uniquement pour les infirmières et aides-soignants travaillant à Paris et dans la petite couronne et qui gagne moins de 1900 euros par mois. Dans certains établissements à cheval sur deux départements, il y a donc parfois des différences de salaire. Revalorisation de ce travail qu'ils aiment, c'est le sens de leur marche aujourd'hui et c'est une revendication reprise donc par les médecins, désormais démissionnaires. Les chefs de service rappellent que sans équipe, l'hôpital public tout simplement ne peut pas fonctionner.
Merci à vous Tara Schlegel en direct sur France Culture. Le nombre de personnes vivant dans un territoire sous-doté en médecins généralistes est passé de 2,5 millions en 2015 à 3,8 millions en 2018, en raison notamment du nombre de départs en retraite selon une étude de la DRES publiée ce matin. Les avocats aussi restent mobilisés dans la rue et s'appuient sur la Saint-Valentin également à travers le mot d'ordre « Justice mon amour ». Ils poursuivent leur mouvement contre la réforme des retraites depuis 6 semaines de grève maintenant. Parmi les différentes actions aujourd'hui, les avocats distribuent des roses aux magistrats et aux greffiers. Pour la première fois depuis 10 ans, le résultat du groupe Renault-Nissan plonge avec une perte nette de plus de 140 millions d'euros l'année dernière, après avoir affiché l'année précédente un bénéfice de 3,3 milliards d'euros. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Sophie Delpont.
Alors cette fois-ci, des suppressions de postes sont désormais envisagées.
Oui, des mauvais résultats qui s'expliquent par la mauvaise santé du marché européen, mais aussi mondial, notamment en Chine, moins 17%, en Iran, moins 19%, mais aussi par la mauvaise santé de l'Argentine et de l'Algérie. Face à ce constat, Renault prévoit donc un plan de restructuration de 2 milliards d'euros dans les 3 prochaines années. Un plan de restructuration qui n'exclut pas des suppressions de postes et des fermetures d'usines en France comme à l'étranger, comme l'explique Clotilde Delbos, la directrice générale par intérim de Renault.
Il n'y a aucun tabou, tout est sur la table. Je ne pense pas qu'il serait crédible si je vous annonçais que nous allons faire 2 milliards d'euros d'économies sans toucher à aucune de nos implantations ni à la manière dont nous travaillons. Nous essaierons de préserver au maximum les emplois, c'est clair. Notre objectif n'est pas de supprimer des emplois pour supprimer des emplois. Mais nous allons faire une analyse économique impartiale Une fois de plus, dans le cadre de l'Alliance, et nous prendrons les décisions qui sont nécessaires.
Une analyse économique qui va repasser par différentes stratégies, notamment pour revoir le travail avec les sous-traitants, mais aussi la recherche et développement à l'échelle mondiale pour le groupe Renault-Nissan. Le plan de restructuration sera précisé au mois de mai prochain.
Merci beaucoup Hakim Kasmi pour toutes ces précisions. Une démission surprise hier soir à l'Académie des Césars, démission collective de ses 47 membres à seulement 2 semaines de la cérémonie. Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
Alors plusieurs raisons ont été mises en avant. Il y a l'affaire Polanski, mais aussi le manque de diversité et de démocratie au sein de l'Académie. Les signataires d'une tribune publiée lundi demandaient un changement d'époque. Alors que va-t-il se passer maintenant, Diane ?
Dans son communiqué, l'Académie fait très bref, elle détaille très peu les motifs de cette démission. Elle souhaite simplement, selon ses mots, retrouver la sérénité. Et elle précise enfin que cette décision permettra le renouvellement complet de la direction des Césars, en écho justement à cette tribune publiée lundi dans Le Monde. Parmi les 400 signataires, Jacques Audiard, Céline Sciamma, Omar Sy, Marina Foïs, je ne vais pas donner tous les noms, mais vous imaginez tout le gratin du cinéma. Ils demandaient moins d'élitisme, moins d'entre-soi, plus de démocratie dans une structure composée essentiellement d'hommes cooptés à vie. Parmi eux, par exemple, Michel Gondry, Claude Lelouch et le réalisateur franco-grec Costa Gavras. Il se désole des dernières polémiques, mais il le reconnaît, l'institution aurait dû s'adapter au changement de la société.
Ces petites gaffes ont été gonflées énormément, comme si vraiment il s'agissait, je le répète, d'une sorte de groupe de mafieux. Ça a été créé à une époque, près de 30-40 ans, où il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le cinéma français. Il y en a de plus en plus, et bien il faut le faire entrer aussi dans le comité. Fait entrer beaucoup de jeunes cinéastes et c'est dommage qu'on n'y a pas pensé avant. Voilà, c'est tout.
Alors, pour entamer enfin cette refonte des Césars, une assemblée générale sera organisée après la prochaine cérémonie qui aura lieu, je le rappelle, dans 2 semaines.
Merci Diane Berger. Et les Victoires de la musique, elles, auront lieu ce soir. Une cérémonie critiquée aussi sur le plan d'un manque de diversité et sur le plan de l'entre-soi, notamment autour de la disparition de 5 catégories sur 13. L'électro, le rap, le rock, les musiques urbaines et les musiques du monde disparaissent. Une perquisition a été menée au domicile parisien de Gabriel Matzneff ce matin. Une opération qui s'inscrit dans l'enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans visant l'écrivain de 83 ans. Nous partons maintenant en Chine où le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus approche désormais les 1400 morts. Les autorités ont relevé que 6 membres du personnel soignant étaient décédés alors que les hôpitaux sont débordés. Près de 64 000 cas de contamination sont désormais enregistrés dans le pays, dont au moins 1716 parmi les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades, selon la Commission nationale de la santé qui fait office de ministère. Mais depuis quelques jours, dans 200 villes, les Chinois utilisent plusieurs applications lancés par des géants de l'internet comme Tencent ou Baidu. La high-tech chinoise est au service de la lutte contre le coronavirus, pratique mais aussi un système qui fait froid dans le dos, Dominique André.
L'application s'appelle Shunjiaotie Zhenbingli, chercher des cas confirmés. Monsieur Zhang, un père de famille qui vit près de l'aéroport de Pékin, l'a téléchargé sur son téléphone portable. C'est facile et pratique, mais surtout impressionnant.
Regardez le point rouge, c'est ma résidence. Là, c'est la liste des immeubles où il y a des malades et à quelle distance ils sont d'ici. Je peux agrandir la carte avec mon doigt pour voir exactement où les cas se trouvent. Ça me permet d'éviter ces résidences.
Le petit rond rouge qui indique les résidences où il y a des gens contaminés ressemble à un virus impossible de les rater. Monsieur Zhang l'utilise dès qu'il met le nez dehors, c'est-à-dire une fois par semaine seulement.
Quand je vais faire les courses, juste avant de partir, c'est obligatoire, j'ouvre l'appli pour savoir s'il y a des cas près du supermarché. Si oui, je les évite en changeant d'itinéraire, histoire d'être en sécurité.
Dans ces dernières nouveautés technologiques, la Chine teste aussi un bus autonome qui livre des légumes et des fruits frais pour que les habitants évitent de sortir de chez eux. Des caméras équipées de micros surveillent les appartements des cas suspects en quarantaine. En cas de sortie, les images sont transmises immédiatement aux gardiens de la résidence. En luttant contre le coronavirus, la tech chinoise maintient aussi la population sous contrôle.
Reportage à Pékin, signé Dominique André pour France Culture. En Turquie, c'est un soulagement pour les défenseurs des droits de l'homme. La justice a prononcé l'acquittement d'Asli Erdogan. L'écrivaine et journaliste était poursuivie pour la publication de 4 articles considérés par le régime comme de la propagande terroriste. Elle risquait jusqu'à 9 ans de prison. Il midi et presque 50 minutes sur France Culture, nous retrouvons notre invitée Agnès Pannier-Runacher. Bonjour à nouveau.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Nous parlons avec vous de questions d'environnement. En ce vendredi, après la visite d'Emmanuel Macron sur le Mont Blanc, où en est-on aujourd'hui du tournant annoncé, du tournant écologique annoncé par la présidence ?
Eh bien, nous y travaillons de pied ferme. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense à la loi anti-gaspi qui vient d'être voté et qui prend des décisions historiques, des décisions qui font de nous une des nations les plus en avance en Europe et dans le monde, s'agissant du plastique, s'agissant de la gestion des déchets, la gestion des invendus. Mais nous voulons aller plus loin. Aller plus loin, c'est répondre aux défis climatiques. Et donc, c'est accélérer la baisse des émissions de CO2 dans l'industrie. Aujourd'hui, en dynamique, cette baisse devrait représenter 10 millions de tonnes d'ici 2030. Ce que nous voulons faire, c'est multiplier par 2 à 3 cette baisse avec des actions très concrètes que nous allons présenter dans le cadre du pacte productif début avril.
Des actions contraignantes donc pour les entreprises ?
C'est surtout des actions d'investissement. Le sujet, c'est de savoir comment fabriquer autrement en réduisant notre empreinte énergétique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'industrie, c'est pas le problème, c'est la solution. Et opposer industrie et écologie est assez vain, parce que c'est l'industrie qui est en train d'inventer les process de production qui permettent de diminuer l'empreinte carbone de nos voitures, de diminuer l'empreinte carbone des avions, des trains, et de diminuer également l'empreinte carbone de nos constructions. Et ça, ce sont les deux plus gros postes d'émissions carbone. Et puis dans l'industrie elle-même, il y a un effort de technologie pour remplacer certains procédés. Vous avez 4 filières. Chimie, matériaux, métallurgie et mines, construction et agroalimentaire. Ces 4 filières-là, elles représentent 80% des émissions de CO2. Et vous avez 25 sites en France qui représentent 30% des émissions carbone de l'industrie. Donc en fait, c'est assez resserré et on peut travailler avec ces entreprises et ces sites pour accélérer la transition.
Agnès Pannier-Runacher, Emmanuel Macron parle de combat du siècle en évoquant notre capacité à inventer une nouvelle manière de vivre qui concilierait donc environnement et croissance. Est-ce que c'est possible de concilier une croissance infinie avec un monde fini, comme disent les écologistes ?
Alors il ne s'agit pas d'être dans une croissance infinie, il s'agit d'avoir un usage des matières premières qui soit circulaire. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir un monde où les matières sont infinies. Si vous recyclez de manière infinie du plastique, pour prendre cet exemple-là, de fait, vous recréez la capacité à faire de la croissance. Et les innovations existent, on le voit. En revanche, il faut les accélérer. C'est le premier enjeu du pacte productif, c'est de mettre le paquet sur les innovations, la R&D et l'accompagnement des laboratoires et industriels qui vont nous permettre de faire le bus à hydrogène, l'avion, le biocarburant non fossile, etc. Donc Nicolas, il faut aller dans cette dynamique-là et le recyclage chimique du plastique, la gestion des déchets, on utilise les déchets comme intrants de nouveaux process de production.
Nicolas Hulot avait claqué la porte du gouvernement dénonçant une politique des petits pas. Est-ce que là, on est au seuil d'un plan d'envergure pour une réelle transition écologique en France et en Europe ?
Je crois qu'on a déjà entamé cette transition écologique énergétique. Moi, je me compare avec ce qui se passe à l'international. On voit que des pays comme la Suède, comme les Pays-Bas sont assez en avance, mais on figure dans ces pays qui sont en avance en matière de transition écologique énergétique. Il faut avoir en tête qu'en France, nous sommes le pays qui a l'énergie la plus décarbonée du monde. Avec 90% de notre énergie n'est pas carbonée, n'émet pas de CO2. Donc ce mouvement, on l'a entamé et on doit l'accélérer. Et on va l'accélérer, notamment au travers du pacte productif, où effectivement, on va prendre des décisions transformantes. Mais l'objectif, c'est que nos entreprises invente ces nouvelles façons de produire. C'est pas d'empêcher les gens de travailler et de produire, sauf parce que on décide d'importer tous les biens de l'étranger des biens venant d'un étranger qui produit en émettant beaucoup de carbone.
Merci Agnès Pannier-Runacher, vous étiez l'invitée de cette édition. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances en direct depuis Bercy sur France Culture avec les moyens techniques de Radio France. Un temps calme marqué par un voile de nuages tout de même qui devrait ensuite se dissiper pour laisser place à une alternance de nuages et d'éclaircies sur l'ensemble du territoire cet après-midi. Un grand soleil en revanche sur les Alpes et au bord de la Méditerranée. Les températures sont comprises cet après-midi entre 9 et 16 degrés, 9 degrés à Strasbourg, 12 à Paris, 15 à Bordeaux et maximum 16 degrés, ce sera pour Nice. C'est désormais la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumet. Prochain rendez-vous d'actualité sur France Culture, ce sera le journal de la rédaction à 18h présenté par Benoît Bouscarel.